m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses à-t-il y aller commencer. Il m'a emmené près de la rue des Aubins.
Radio G 101.5 FM.
Classique, l'émission consacrée à la musique classique avec tous les genres, tous les styles et toutes les époques. Sur les ondes de l'autre radio, alors les concerts publics vont enfin pouvoir reprendre, les salles de spectacle vont pouvoir à nouveau ouvrir leurs portes. Il faut encore leur laisser un peu de temps, histoire que les billetteries se réorganisent et que les promotions des concerts arrivent. Nous en profitons pour rappeler à chaque annonceur et chaque producteur de spectacle eh bien, qu'ils peuvent nous faire parvenir leur publicité de concert, leur date à venir pour les mois de décembre, janvier, février et la reprise des concerts sur toute la saison 2021 en écrivant tout simplement à Radio G par voie postale ou en allant sur le site Radio G et en allant précisément sur l'émission Post-Classique pour adresser un message. C'est avec plaisir que nous relayerons évidemment les informations de vos concerts à venir. En attendant, aujourd'hui, eh bien, nous allons encore consacrer un post-classique entièrement aux albums qui s'apprêtent à sortir ou des albums qui sont sortis dans les semaines à venir. Vous allez pouvoir le constater pendant 50 minutes, une grande diversité musicale. Preuve en est, on commence tout de suite par un générique qui normalement va vous être familier. On pourrait dire, êtes-vous prêt pour l'aventure ? Dans un sens, on l'écoute et on en reparle juste après. Bienvenue, vous êtes sur Post-Classique. Kaamelott, un film d'Alexandre Astier avec lui-même dans le rôle principal. Alors nous sommes en 484, 10 ans après que Lancelot ait pris le pouvoir. Il organise une chasse aux sorcières aidé par des mercenaires saxons pour retrouver Arthur et ses chevaliers aujourd'hui divisés et dispersés. Vous le savez, la série diffusée sur une célèbre chaîne de la TNT a fini par être adaptée au cinéma et c'est donc là la musique de ce premier volet consacré au cinéma et une musique composée par Alexandre Astier. Vous aurez évidemment reconnu les fameuses sonneries royales des cors et trompettes qui rappellent évidemment les épisodes de Kaamelott. On poursuit à présent avec la sortie d'un autre album, et bien celui d'un album consacré aux plus grands airs de Handel par la grande chanteuse Cecilia Bartoli. Elle consacre un nouvel album qui sort sous le label Decca et qui s'intitule notamment La Reine du Baroque, Cecilia Bartoli, Queen of Baroque. On l'entend dans des plus grands airs du compositeur, à commencer par le fameux Lacha Chopionga, extrait de l'opéra de Rinaldo. extrait de son opéra Rinaldo et nous entendions l'une des plus grandes voix du 21e siècle, Cecilia Bartoli, qui présente à l'occasion de la sortie de son nouvel album pour le label Decca Classique intitulé Queen of Baroque, elle présente une nouvelle collection de ses meilleures interprétations d'air baroque. Cet album regroupe ses plaisirs musicaux et ses découvertes du XVIIe et XVIIIe siècle, dont deux inédits en première mondiale de l'œuvre de Leonardo Vinci et Agostino Stefani, ainsi que ses duos avec entre autres Philippe Jarouski, John Anderson, Franco Fagioli ou encore la violoncelliste Sol Gabetta. Un album incontestablement à découvrir et peut-être qui pourrait faire partie des cadeaux déposés sous le sapin pour le Noël à venir. On continue du coup avec un autre extrait de cet album pour entendre à nouveau la formidable voix de Cecilia Bartoli. On l'entend cette fois dans un extrait de La Resurrezione, toujours de George Frédéric Handel.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio G et sur l'autre radio, nous sommes dans l'émission post-classique et nous entendions ici la grande soprano Cecilia Bartoli interpréter un air de George Frédéric Handel, extrait de son opéra La Résurrectione. C'est à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Queen of Baroque et qui consacre ses meilleurs airs, ses airs préférés des 17e et 18e siècles. Vous pouvez retrouver cet album sous le label Deka Classique. On poursuit à présent avec la sortie d'un album consacré à la musique de Tchaïkovski et ce sont les musiciens de l'orchestre de la Tannhalle de Zurich et le chef d'orchestre Paavo Järvi qui présente un enregistrement de la 5e symphonie de Tchaïkovski, mais également de la fameuse fantaisie pour orchestre opus 32 intitulée Francesca da Rimini. Nous allons entendre justement ici le final de cette grande pièce pour orchestre écrite par Tchaïkovski.
Thank you.
musique de Tchaïkovski, vous l'aurez compris, un côté dramatique. Il faut dire que cette grande pièce pour orchestre, qui est intitulée Francesca da Rimini, eh bien, reprend tout simplement l'histoire de Francesca da Rimini, ou dit aussi Francesca da Polenta, qui est une jeune Italienne dont les amours tragiques ont été immortalisés par Dante Alighieri dans la Divine Comédie. D'une grande beauté, Francesca, fille de Guido de Polenta, un noble de Ravenne de la maison des Polenta, a vécu à la fin du XIIIe siècle. Pour des raisons uniquement politiques, son père la marie à Gianciolotto Malatesta, un homme de valeur mais affligé d'un corps difforme. Il était couramment appelé Gianni lo Ciantanto, Giantotto le Boiteux. Cette union, destinée vraisemblablement à sceller une alliance politique entre les deux familles, se fit par procuration. Le couple eut une fille, Concordia, et un fils, Francesco. Dans la Divine Comédie de Dante, eh bien, les deux jeunes amants sont immortalisés dans le chant 5 de l'Enfer de la Divine Comédie de Dante, qui transforma cette tragédie en véritable mythe, croisant les thèmes populaires de l'amour interdit et de la damnation éternelle, puisque, vous l'aurez compris, Francesca da Rimini ne peut se contenter de son mari qu'on lui a imposé. C'est donc un album à découvrir avec les musiciens, nous vous le disions, de la Tanale de Zurich, dirigé par le maestro Paavo Järvi, dans la collection du label Alpha Classics. Ils en ont profité également pour enregistrer la merveilleuse symphonie numéro 5 de Tchaïkovski. On poursuit à présent avec la sortie d'un nouvel album avec le luthiste Thomas Dunford, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Eh bien, il sort un album consacré à la musique anglaise intitulé The Mad Lover, l'amour fou pourrait-on dire, avec son compagnon violoniste Théotime Langlois de Swart. Et nous allons tout de suite entendre une première chaconne qui ouvre cet album et qui nous permet de rentrer vraiment dans la mélancolie amoureuse anglaise, divinement bien portée par le luth et par le violon. Thank you. icône anglaise, vous l'aurez compris, avec une basse obstinée, c'est-à-dire la basse qui répète éternellement la même formule. Là, ici, nous avions une formule descendante de 4 ou 5 notes. Nous entendions ici Thomas Dunford au luth et Théotime Langlois de Swart au violon. C'est à l'occasion de la sortie de leur nouvel album pour Harmonia Mundi, intitulé The Mad Lover, l'amour fou, et qui nous plonge donc dans la mélancolie amoureuse anglaise. On poursuit maintenant avec la sortie d'un disque consacré à la musique de Beethoven, avec notamment le concerto pour piano numéro 4 en sol majeur, et c'est le pianiste et chef d'orchestre Lahav Chani qui conduit les musiciens de l'orchestre philharmonique de Rotterdam dans une très belle interprétation en live de ce concerto pour piano dont nous allons entendre immédiatement et bien le deuxième mouvement, l'Andante con moto, un mouvement qui avance avec mouvement.
Thank you.
Beethoven, nous entendions ici le second mouvement de son concerto pour piano en sol majeur. Nous étions ici dans un mouvement lent, dans un mouvement d'andante, et nous n'étions pas plus dans une tonalité majeure, mais bien dans une tonalité relative mineure. Nous entendions ici Afshani au piano, et il dirigeait également depuis le clavier les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Ils enregistrent également sur le même CD la 7e symphonie de Beethoven. C'est à l'occasion de la sortie de leur nouvel album qui sort sous le label Warner Classic. On entend à présent maintenant de la musique d'orgue avec un compositeur finalement assez méconnu pour les non-initiés à l'orgue. Nous allons entendre les symphonies écrites pour l'instrument par Vidor, et c'est Christian von Blohm qui en est l'interprète. Nous entendons tout de suite le 3e mouvement Allegro de sa 8e symphonie pour orgue seul en si majeur.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio G et l'autre radio à l'écoute de Pause Classique et nous entendions la symphonie numéro 8, le troisième mouvement pour orgue seul du compositeur Charles-Marie Vidor, un disque qui sort sous le label Naxos, interprété par l'organiste Christian von Blom et qui consacre donc la musique pour orgue seul de ce grand compositeur et organiste d'origine lyonnaise, c'est ce qu'on peut lire sur le site de l'encyclopédieuniversaliste.fr. Un compositeur organiste d'origine lyonnais mais d'ascendance hongroise, petit-fils d'un facteur d'orgue alsacien, Charles-Marie Vidor est l'un des représentants éminents de l'école romantique post-franquiste. Pour l'instrument de cavalier-école, il va écrire et des grandes symphonies, les premières du genre pour orgue seul. Tout jeune, il est l'organiste de l'église Saint-François à Lyon, puis part étudier à Bruxelles. En France, très vite, il deviendra professeur au conservatoire de Paris, professeur d'orgue de 1890 à 96, après s'il vous plaît le grand César Franck, puis professeur de contrepoint et de fugue en 96 jusqu'à 1904 et professeur de composition à partir de 1905. Il écrit une œuvre aussi pour orchestre, pour la scène, une musique de chambre, des mélodies qui furent longtemps méconnues, même si son ballet, par exemple La Korrigane de 1880, eut quelques succès. Avec sa messe pour double chœur et deux orgues, il met en honneur un style triomphant qui aura fait beaucoup d'émules, Louis Vian notamment. Il aime les grandes masses sonores à l'orgue, tout autant que les effets nostalgiques de la boîte expressive. Ces 10 symphonies écrites de 1876 à 1900 valent surtout par leur architecture solide, une architecture empruntée, vous l'aurez compris, au style et à la patte de composition de Jean-Sébastien Bach, pour lequel Charles-Marie Vidor était un des plus grands admirateurs, et il aimait évidemment à faire perdurer la tradition de Jean-Sébastien Bach à l'orgue. On le voit bien, Charles-Marie Vidor dans ses compositions s'inspire du style de Bach. On poursuit l'exploration des nouveaux CD dans Pause Classique avec la musique de Béla Bartok, cette fois-ci par le Quatuor Jérusalem, et nous allons entendre tout de suite le troisième mouvement Allegro de son Quatuor à cordes numéro 1, opus 7. Thank you. Béla Bartok, c'est à l'occasion de la sortie du nouvel album du Jérusalem Quartet qui sort sous le label Harmonia Mundi et qui consacre donc les quatuors à cordes numéro 1, 3 et 5 du compositeur Béla Bartok. Nous entendions ici le troisième mouvement Allegro Vivace de son premier quatuor à cordes opus 7 du compositeur hongrois Béla Bartok. Voilà, on ne peut pas être dans ce mois de décembre avec le début du calendrier de l'Avent, le début des calendriers de l'Avent musicaux que vous allez voir apparaître sur les nombreux réseaux sociaux de tous les orchestres, de toutes les structures musicales françaises. Évidemment, lorsqu'on est aussi à l'approche des fêtes comme ça, on ne peut s'empêcher de penser à la musique de Tchaïkovski, à la musique de ses ballets et notamment au Casse-Noisette. Nous ne pouvons donc pas résister à l'occasion de vous présenter ou de vous faire réentendre évidemment cette musique du Casse-Noisette et plus précisément la fameuse danse de la fée dragée. Extrait du ballet du Casse-Noisette de Tchaïkovski. Nous l'entendions ici par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Bonn, placé sous la direction d'Heribert Bessel. Nous vous disions, nous ne pouvions résister à l'approche des fêtes de vous faire entendre comme ça les plus grands classiques de Noël, et cette danse de la fée dragée en fait partie. Alors, historiquement, c'est aussi l'occasion à l'époque d'entendre pour la première fois le fameux instrument qui interprète ce thème de la fée dragée. C'est un celesta, on pourrait dire que c'est un petit piano, effectivement, c'est un instrument à clavier, mais dont les marteaux frappent des lames métalliques, alors que dans un piano, par exemple, les marteaux viennent frapper des cordes, elles, métalliques. Là, la différence, eh bien, c'est que ces marteaux, en frappant des lames métalliques, produisent un son très léger. Tchaïkovski découvre cet instrument à l'Exposition universelle de Paris en 1889. Inventé quelque temps auparavant, il le fit venir secrètement en Russie, à l'abri des regards et des oreilles de ses collègues compositeurs. Il voulait, en effet, à l'occasion de la première du ballet de Casse-Noisette, révéler un effet inouï avec cet instrument, et on peut dire que ça a fonctionné. On pense notamment aux multiples usages, aux multiples détournements du celesta de cette musique, à la fois pour la publicité, pour le film. On pense évidemment au célèbre film d'animation musicale Fantasia. Et puis l'instrument, lui, il a été utilisé récemment, on le sait, ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant, c'est le même instrument utilisé par John Williams pour évoquer tout simplement le thème d'Harry Potter. Voilà, Pause Classique, c'est fini. fini pour ce soir. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec toujours plus de musique. Dans un instant, c'est la suite des programmes de la nuit sur l'autre radio. Et puis sur Radio G, vous retrouvez Intoxicate présenté par King Olivier. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.
www.radio-g.fr